Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, bonjour. Nous reprenons donc une série de 6 cours qui nous mèneront jusqu'au milieu de décembre. Je rappelle peut-être les dates de ces cours qui ont lieu entre 10 et 12 avec une petite pause de 5 minutes, à la fois pour le repos nécessaire et pour les contraintes de l'enregistrement pour France Culture. Donc nous avons un cours la semaine prochaine, le 30, ensuite 2 semaines d'interruption et la reprise pour le 3e le 20 novembre, puis le 27 novembre, le 11 décembre et le 18 décembre. Pour ce qui est du séminaire qui peut intéresser les étudiants, il commencera la semaine prochaine seulement, le 30. Alors aujourd'hui, pour renouer les fils interrompus avec le séminaire, le cours de l'an dernier, et pour qu'il soit compréhensible, celui de cette année, à ceux et celles qui n'ont pas assisté au cours l'année dernière, à l'automne dernier, je voudrais rappeler que le projet intellectuel de ce cours, qui doit se concrétiser dans l'écriture d'un livre, est de partir à la recherche d'un texte perdu, qui est une pièce intitulée Cardenio. Je vais donc commencer en m'excusant auprès de ceux qui étaient là l'année dernière de l'effet de répétition, mais je crois d'une part que ça peut rafraîchir nos mémoires et que d'autre part ça permettra à ceux et à celles qui n'avaient pas assisté l'an dernier à entrer dans cette recherche. Je vais donc rappeler les éléments essentiels qui avaient pu être établis l'année dernière et que vous retrouverez d'ailleurs pour grande partie, ou même plus développés, dans l'annuaire qui est publié chaque année des cours qui ont été donnés l'année précédente. Toute l'histoire commence avec un registre de comptes anglais du début du XVIIe siècle, qui sont les paiements qu'a fait le trésorier de la Chambre du Roi. Et parmi ces paiements, à la date du 20 mai 1613, on trouve mentionné le versement de 93 livres à John Heming, qui était l'un des acteurs, l'un des propriétaires de la troupe des Kingsmen, donc de la troupe des comédiens du roi, officiellement désignés d'ailleurs à la manière anglaise du temps comme des serviteurs du roi, Grooms of the Chamber. Et pourquoi ? Pour les représentations de 14 pièces qui ont été données durant les semaines ou les mois qui précèdent devant la fille du roi, Jacques Ier, la princesse Élisabeth, et le prince palatin, qui est un des électeurs de l'Empire allemand, qu'elle épouse. Et ce même warrant, ce même reçu, ce même livre de compte, ordonne le paiement de 60 autres livres pour le même John Heming, pour la même compagnie théâtrale, les Kingsmen, pour les représentations de 6 autres pièces qui, elles, ont été aussi jouées dans le Palais Royal, et parmi elles, un titre, Cardena. Un mois plus tard, le 9 juillet 1613, il y a un autre paiement, plus modeste, de 6 livres, qui est payé toujours au même John Heming, et comme dit le texte, « The rest of his fellows, his majesty's servants and players », les autres compagnons des serviteurs et comédiens de sa majesté, pour une représentation devant le duc de Savoie, qui a été reçu à la cour d'Angleterre, d'une pièce à nouveau intitulée « Cardena ». C'est cette pièce, au nom variable, mais cela n'a rien d'étonnant, les scribes des chancelleries ou des trésoreries pouvaient avoir des variations d'orthographie extrêmement fortes, cette pièce intitulée Cardeno ou Cardena, qui est l'objet de cette recherche et dont ce travail voudrait percer, s'il est possible, le mystère. Parmi les 20 pièces donc, qui sont mentionnées dans le premier versement du 20 mai 1613, pourquoi en fait s'intéresser plus particulièrement à cette pièce qui était nommée donc Cardeno, C-A-R-D-E-2-N-O. Et à l'évidence, la réponse est parce que ce titre est le nom d'un personnage et que ce personnage apparaît dans un des livres les plus fondamentaux, les plus fameux, que Don Quichotte de la Manche, dont une traduction en anglais avait été publiée l'année précédente, en 1612, par le libraire-éditeur Edward Blount, avec le titre de « The History of the Valorous and Witty Knight-Errant Don Quixote of the Mancha », l'histoire du valeureux et subtil chevalier Don Quichotte de la Manche. On voit donc qu'un an à peine après sa traduction en anglais, le texte de Cervantes pouvait servir de source à une pièce représentée devant la cour. Et je rappelle que l'édition originale en castillan du texte du livre de Cervantes avait été imprimée là pour à la fin de l'année 1604 dans l'atelier de Juan de la Cuesta à Madrid, et que le livre qui avait commencé à circuler à la toute fin de 1604 à la cour d'Espagne, qui était à ce moment-là à Valladolid, porte la date de 1605. Traduction à l'anglais, 1612. Il ne fait pas de doute, en effet, que ce mystérieux cardeno du registre du trésorier de la chambre du roi est le cardenio, ce jeune noble andalou qui, par désespoir d'amour, a fait retraite dans la Sierra Morena, où il se conduit un peu comme un homme sauvage, les habits déchirés, les biens abandonnés, le visage brûlé par le soleil, sautant de rocher en rocher. Et c'est là où Don Quichotte le rencontre, au chapitre 23 des éditions modernes. En fait, la première édition du Quichotte, celle de 1605, est divisée en quatre livres, et c'est au chapitre 9 du troisième livre qu'apparaît la rencontre entre Don Quichotte et Cardenio, lorsque Don Quichotte lui-même a décidé, pour imiter Orlando Furioso ou Amadis de Gaulle, de faire retraite dans la même Sierra Morena. Et l'histoire de Cardenio commence avec ce premier récit que fait Cardenio de ses malheurs à Don Quichotte au chapitre 23, pour résumer le fait qu'il était éperdument amoureux d'une jeune fille, Lucinda, qui partageait son amour et s'était promise à lui, mais que son ami Fernando, qui est le fils du duc, après avoir séduit une autre jeune fille, Dorothea, et avoir vu Lucinda, est tombé à son tour amoureux de Lucinda, et comme il a la puissance sociale plus grande que Cardenio, a obtenu la main de celle-ci de son père, du père de la jeune fille. Et c'est donc l'histoire de ces amours infortunés que raconte Cardenio, et que d'autres personnages, Dorothea puis Fernando, vont aussi mener à leur terme dans le Quichotte, où l'histoire occupe de nombreux chapitres, jusqu'au chapitre 47 de la première partie, et où là, les amants qui s'étaient promis l'un à l'autre se retrouvent, et tout est bien qui finit bien. Il y a là une matière pour une pièce de théâtre à la fois tragique, avec les infortunes, les malheurs, les désespérances des personnages, et en même temps, il y a un aspect heureux, puisque les couples qui s'étaient promis fidélité se retrouvent au moment où ils sortent du texte du Quichotte. Et beaucoup de commentateurs ont insisté sur le fait que cette alternance ou cette tension entre le tragique et le plaisant pouvait avoir un écho dans la situation même de la cour d'Angleterre pendant l'hiver 1612-1613, puisque d'un côté, le prince héritier, Henri, était mort le 7 décembre 1612, et que le 14 février 1613, comme je le disais, la fille du roi, Élisabeth, épouse le prince palatin du Rhin. On a donc une période qui est traditionnellement une période de fête dans les cours comme dans les campagnes ou les villes européennes de la première modernité, les cycles des 12 jours entre le jour de Noël et Twelfth Night, la nuit de l'Épiphanie, et puis d'autre part le cycle carnavalesque qui commence au début février. On a donc une période qui est marquée à la cour d'Angleterre par la douleur du deuil, la mort du prince héritier, dont l'effigie de cire est à Westminster, dans l'abbaye, posée sur son catafalque avec les insignes monarchiques, et d'autre part un temps de réjouissance avec l'hyménée de la fille du roi et du prince palatin. Et donc des thèmes, des pièces qui pouvaient être représentées dans ce contexte classique, celui du théâtre pendant les cycles festifs des 12 jours et du carnaval, mais en même temps avec cette présence de la mort, y compris physique, avec le prince héritier sous cette forme d'effigie de cire que l'on emploie en Angleterre et en France pour, comme représentation du pouvoir théologique et politique du roi au moment de leur mort, le corps du prince étant lui caché dans le catafalque, les pièces devaient tenir une thématique qui pouvait résonner avec cette tension, et c'est dans un sens le cas de l'histoire de Cardenio telle qu'on la rencontre dans Don Quichotte. La traduction de Shelton, publiée en 1612, un auteur, Thomas Shelton, traducteur catholique, qui peut publier, très peu en dehors de cette traduction de Don Quichotte, peut se situer dans un double contexte. Il y a d'abord un contexte éditorial, puisque l'éditeur de cette traduction, Edward Blount, est un éditeur qui a ouvert son catalogue de publications aux textes portugais, espagnol, italien, français. Et il est par exemple l'éditeur de la traduction des Essais de Montaigne par Floriot, publiée en 1603, « The Essay of Moral, Politic and Military Discourses », et qui va avoir une influence considérable sur les auteurs anglais du début du XVIIe siècle. Il est aussi l'éditeur de l'histoire naturelle et morale des Indes occidentales et orientales du père José de Acosta, ou encore du texte libertin de Charon, de la sagesse, of Wisdom, publié en 1608. Et en 1623, il sera, avec trois autres libraires éditeurs de Londres, l'un des quatre éditeurs du folio de 1623, c'est-à-dire du livre qui rassemble, qui réunit pour la première fois les Comedies, Histories and Tragedies de Shakespeare. Et il est le seul, d'ailleurs, de ces quatre éditeurs dont le nom figure sur la page de titre. C'est un contexte donc éditorial d'ouverture, en particulier grâce à la stratégie d'édition de Edward Blount, d'ouverture du monde anglais aux traductions des textes du continent. Le deuxième contexte, c'est évidemment la forte présence espagnole sur les scènes anglaises. Il y a deux modalités essentielles que j'avais essayé de marquer l'année dernière. La première, c'est de situer une action dramatique en Espagne. Et c'est ce qui advient avec la première des tragédies qui emploie cette localisation, c'est-à-dire « The Spanish Tragedy » de Thomas Kyd, écrite entre 1582 et 91, vraisemblablement après 1585, cette pièce, cette tragédie, est la première qui situe dans la péninsule ibérique, « The Spanish Tragedy », un thème fondamental des drames élisabéthains, c'est-à-dire les obligations implacables de l'honneur outragé, qui c'est évidemment aussi un thème en consonance avec le répertoire proprement espagnol de la comédia. La Spanish Tragedy de Thomas Kyd inaugure à la fois un genre, celui des pièces de la vengeance, The Revenge Plays, dans lesquelles on peut situer Hamlet, et d'autre part une localisation, une référence qui est la référence ibérique, même si l'intrigue s'est éloignée de la réalité historique, puisque l'intrigue de Thomas Kyd considère qu'il y a un vice-roi au Portugal qui est un tributaire du roi d'Espagne et qui est entré en guerre contre lui. La réalité historique est toute différente, puisque depuis 1582, le Portugal est directement soumis à l'autorité du roi espagnol, qui est souverain de Castille, d'Aragon et de Portugal. Premier thème, donc, le croisement entre la référence à Sénèque, les tragédies de la vengeance, mais en les localisant dans le monde ibérique. Le deuxième thème, plus proche de l'actualité politique du temps, est la présence sur les scènes espagnoles d'un stéréotype, les scènes anglaises, pardon, d'un stéréotype de l'espagnol, ridicule, maniéré, fanfaron, bravache, c'est-à-dire un personnage qui est très semblable dans sa multiplication à un personnage shakespearien de Peine d'amour perdu, Love's Labour Lost, de 1598, dans la pièce dans laquelle apparaît un Espagnol qui est à la fois un amoureux ridicule et un bravache peureux, et qui a pour nom Don Adriano de Armado. Et le choix par Shakespeare de Armado, évidemment, créait une résonance pour tous les spectateurs ou tous les lecteurs, puisqu'il y avait là un jeu avec l'Armada, que le roi de Castille, Aragon et Portugal avait armé, espérant débarquer en Angleterre. Et cette invincible Armada fut, comme vous le savez, vaincue. Et de la même façon, Armado, avec ses proclamations de bravoure, est en fait un couard fanfaron. Cette figure divertissante, dérisoire, on la trouve répétée avec d'autres personnages, dans des pièces beaucoup moins connues, évidemment, que Love's Labour Lost, et qui emprunte aussi quelquefois le nom de héros de la littérature espagnole. Une de celles-ci est une pièce de 1602, du moins dans son édition, qui avait été jouée par la troupe d'enfants des Children of St. Paul, et qui a pour titre Blurt Master Constable, et qui porte sur la scène un personnage appelé Lazarillo. Lazarillo est évidemment le héros du Lazarillo de Tormes, le premier roman picaresque, les premières éditions connues des années de 1555, et le roman avait été traduit en 1586, et une suite lui avait été donné en castillan, traduit elle aussi en anglais, en 1602, et dans cette suite, Lazarillo apparaissait comme un soldat, ce qui pouvait servir de support à cette appropriation faite par sans doute Thomas Dacre, qui est l'auteur de Blurt Master Constable, d'un Lazarillo militaire, mais militaire comme Don Adriano de Armado, c'est-à-dire un Lazarillo militaire dont la supposée bravoure, les proclamations de courage sont constamment démenties par les témoins de sa couardise. Ce Lazarillo n'a pas beaucoup de rapport avec le Lazarillo espagnol, pas même avec le second de la continuation du texte, mais il incarne une autre fois cette vanité et superstition, cet aspect de matamor et en même temps de bravache peureux qui vient cristalliser un stéréotype de l'espagnol sur les scènes anglaises, dont les raisons pourraient être d'ailleurs remises aussi à une volonté de contrôler, de créer un contrepoint qui produit le rire à ce qui est une crainte très forte, c'est-à-dire la crainte de la puissance espagnole et plus encore dans la Leyenda Negra qui naît en Italie et en Angleterre, la crainte de la cruauté que cette puissance espagnole a déjà infligé aux habitants du Nouveau Monde et pourrait infliger à l'Europe, en particulier à l'Europe protestante. Il y a une façon de désamorcer cette peur de l'espagnol, et de là le rôle clé de l'épisode de l'invincible mais vaincu Armada, à travers cette construction d'un stéréotype donné à rire au public. Alors c'est dans ce double contexte qu'on peut situer à la fois la traduction de Don Quichotte par Shelton, publiée par Edward Blount, et l'appropriation de ce texte par la pièce de 1613. Il est bon de rappeler aussi que dès avant la publication de 1612 de la traduction de Shelton, on trouve de nombreuses références ou allusions à l'histoire telle que Cervantes l'a écrite. Ces allusions ou ces références apparaissent dans plusieurs pièces. L'une, qui est sans doute la plus fameuse et peut-être aussi une des toutes toute première, c'est cette pièce, The Knight of the Burning Pestle, le chevalier au pilon flamboyant, ou à l'ardent pilon, comme on voudra, qui est attribué à Beaumont et Fletcher, mais qui est considéré maintenant par la critique, sans doute écrite par le seul Beaumont. La première édition ne date que de 1613, mais la pièce est sans doute antérieure et a été représentée, elle aussi, par la Compagnie d'Enfants. Entre parenthèses, je rappelle que le théâtre à Londres, à ce moment-là, se répartit entre deux types de lieux scéniques. D'un côté, les public amphitheaters, comme le Globe, c'est-à-dire théâtre ouvert, représentation durant la journée. Il y a un public de plusieurs milliers de personnes, dont la plus grande partie sont debout, les groundlings, autour de la scène. Et d'autre part, un théâtre plus restreint socialement, où les spectateurs sont assis, et qui a réutilisé des anciennes salles des couvents, en particulier le couvent des Blackfriars, des frères noirs, dans le centre de Londres. Et si le premier théâtre sont occupés par les troupes d'acteurs ou de comédiens tels les Kingsmen et beaucoup d'autres, c'est-à-dire avec des acteurs qui sont tous des hommes, même pour les rôles féminins, et qui sont en général des jeunes gens ou des adultes, les salles fermées étaient, elles, de plus en plus, à partir de 1600, données à des compagnies d'enfants pour des spectacles où le chant pouvait venir se lier avec l'action dramatique, comme si ces compagnies d'enfants étaient une forme moderne des manécanteries médiévales. Alors, c'est le cas au Blackfriars, et c'est là où le chevalier à l'ardent pilon a été représenté. Et pourquoi ce rapport avec Don Quichotte ? C'est parce que dans l'intrigue du chevalier au pilon flamboyant, ou à l'ardent pilon, un garçon d'épicerie se fait grocer errant, se fait épicier errant à la manière de l'Hidalgo errant de Cervantes. Et ceci dans une pièce extrêmement intéressante qui lie à la fois le théâtre dans le théâtre, puisque la pièce donne à voir la représentation d'une pièce qui va être jouée et qui s'appelle The London Merchant, et une pièce qui suscite la critique, l'ire des spectateurs, mais qui sont en fait des personnages de fiction, parce qu'ils considèrent que ces pièces sur les citizens de Londres sont lassantes et la satire finit par s'émousser, et proposent une autre pièce dans la pièce qui serait les aventures chevaleresques de leur garçon d'épicerie, Raff, le grocer errant. Et donc, il y a là une structure du théâtre dans le théâtre et en même temps l'enchevêtrement d'une pièce représentée appartenant au genre classique des pièces de la ville, des city comedies, et d'autre part, une imitation, une appropriation, une variation sur le thème du Quichotte, c'est-à-dire les aventures chevaleresques d'un personnage qui, dans ce cas-là, est un garçon, un apprenti épicier. Il ne faut pas mettre en rapport trop strictement l'intrigue de Don Quichotte et l'intrigue du chevalier à l'ardent pilon, mais néanmoins, il est clair que la relation existe. Et l'important est la datation de la pièce. Comme je le disais, elle n'a été publiée qu'en 1613, mais les éléments des préliminaires donnent à penser qu'elle a pu être écrite et représentée soit en 1611, c'est-à-dire déjà avant la traduction de Shelton, et plus vraisemblablement encore entre 1607 ou 1608. C'est-à-dire ici une connaissance de Don Quichotte en Angleterre avant la traduction à l'anglais. Comment peut-on expliquer cela, qui est un peu le soubassement de toute cette recherche? La première hypothèse est évidemment que dans l'Europe du début du XVIIe siècle, le castillan est une langue connue, et connue assez largement par les élites aristocratiques, mais aussi au-delà. Et donc, du coup, on peut supposer qu'en Angleterre comme en France,
l'une ou l'autre des éditions du Quichotte en espagnol a pu être lue et utilisée dans ce cas-là par Beaumont pour établir une variation amusante, puisque l'Hidalgo s'est transformé en épicier de ses aventures chevaleresques, puisque les deux, Raff et Don Quichotte, ont lu les mêmes livres, qui sont les récits de chevalerie qui inspirent leurs rêves, leurs désirs et leurs hauts faits. Alors, entre 1605 et 1611, on a une série d'éditions du Quichotte en espagnol qui ont pu être lues au-delà, en dehors de l'Espagne. On a 5 éditions la première année, en 1605, 2 à Madrid, 2 à Lisbonne, 1 à Valence, 1 édition à Bruxelles en 1607, 1 autre édition à Madrid, qui est la troisième des Juan de la Cuesta, en 1608, et en 1610, une édition à Milan, et en 1611, une autre édition à Bruxelles, et toutes, évidemment, en espagnol, c'est-à-dire des éditions qui sont publiées dans l'une ou l'autre des territoires qui appartient à la souveraineté du roi espagnol, la Castille, l'Aragon, avec Valence, qui est rattachée, le Portugal, comme je le disais, directement soumis à la souveraineté du roi de Castille depuis 1582, et les territoires italiens ou flamands qui sont sous sa domination. Donc, 9 éditions avant 1611. Si l'on admet que le tirage moyen d'une édition en ce temps-là serait de 1500 exemplaires, et si l'on ajoute à ces éditions, si on a multiplié par 9 ces 1500 exemplaires, on a donc 13500 exemplaires du Quichotte qui ont circulé en espagnol entre 1605 et 1611, ce qui donne la possibilité, évidemment, de cette lecture au-delà de l'Espagne, d'autant que, comme je le disais, l'espagnol est une langue apprise, à preuve la multiplication en Angleterre des grammaires ou des dictionnaires ou des manuels qui sont destinés à enseigner l'espagnol, publiés soit par des érudits professeurs d'université, soit par des maîtres de langue qui enseignent un espagnol plus pratique à ceux qui en ont besoin. Donc, première hypothèse, la lecture hors d'Espagne du texte en espagnol. La seconde était la possibilité d'une circulation en manuscrit de la traduction de Shelton avant sa publication imprimée. Le texte a été enregistré par Blount dans le register de la Stationer's Company, autre parenthèse, le système de publication dans l'Angleterre du début du XVIIe siècle, est fondé sur les pratiques de la corporation des libraires et imprimeurs, que l'on appelle la Stationer's Company, du nom ancien des stationnaires, c'est-à-dire les libraires du temps médiéval et des manuscrits. Et la procédure est que lorsque un libraire ou un imprimeur veut éditer un livre, il en dépose, le terme était « enter », « enters », le titre dans le registre de la Stationer's Company, et s'il n'y a pas d'objection d'une censure exercée d'ailleurs à l'intérieur de la corporation, il possède le writing copy sur ce titre, ça veut dire qu'il a le monopole de sa publication. Et c'est ce qu'avait fait Blount pour la traduction de Shelton en janvier 1611 et publication en 1612. Mais il indique qu'il a traduit Don Quichotte peut-être 5 ou 6 ans auparavant dans la préface, ce qui nous ramène à 1607, et ce qui pourrait rendre compte du fait qu'il y a des allusions en dehors du Chevalier à l'Ardent Pilon sont présentes dans des pièces anglaises bien avant 1612. Bien avant, quelques années avant 1612, et en particulier des allusions à ce qui va devenir en quelque sorte emblématique de l'histoire de Cervantes, c'est-à-dire le combat contre les moulins à vent. On a des allusions dans une pièce de Wilkins, de The Misery of Enforced Marriage, dans une pièce de Middleton, Your Five Gallants, qui sont des pièces de 1607 ou 1608, et dans une pièce de Ben Jonson, Epicoene, en 1609. Ce n'est pas une allusion à un moment du texte, c'est une allusion au Don Quichotte comme livre qui est faite lorsqu'un des personnages, True Wit, donne ce conseil à Sir Dauphin qui veut vraiment apprendre à connaître les femmes. Et True Wit, esprit véritable, lui dit « Vous devez cesser de vivre dans votre chambre avec Amadis de Gaulle ou Don Quichotte, comme vous en avez l'habitude, et vous rendre là où le thème est fréquent, à la cour, au tournoi, aux fêtes, dans les théâtres et parfois dans les églises. » C'est-à-dire une allusion en 1609 à soit une copie manuscrite de la traduction de Shelton, soit un exemplaire d'une édition espagnole. Alors, Don Quichotte est connu en 1613. Pourquoi donc ce titre, Cardenio, qui pourrait indiquer que la pièce de 1613 s'est attachée non pas au héros principal de la Historia de Cervantes, Don Quichotte et Sancho, mais s'est attachée à la figure de Cardenio, qu'il faut bien dire, beaucoup de lecteurs contemporains ont parfois un peu oublié, même si, comme je le disais, les personnages qui sont liés à Cardenio, Lucinda, Fernando et Dorothea, sont présents presque à chaque chapitre, entre le chapitre 23 et le chapitre 47. Pourquoi donc choisir ce personnage, et donc derrière ce personnage, une intrigue qui est une intrigue de nouvelle sentimentale, d'amour contrarié, finalement satisfaite, plutôt que les aventures satiriques, comiques, puissantes du chevalier errant. Alors, la réponse, évidemment, n'est pas aisée, c'est tout le propos de ce cours, puisque la pièce n'existe pas, elle n'a jamais été publiée sous forme imprimée, et elle n'existe aucun manuscrit. D'ailleurs, en troisième parenthèse, ce fait qu'elle n'a jamais été publiée n'est pas en soi quelque chose qui doit nous surprendre. Le répertoire du théâtre anglais de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, entre 1565, qui est considéré comme la date de la première tragédie anglaise, « Tragedy of Gordebuke » de Norton et Sackville, jusqu'en 1642, qui est le moment de la fermeture des théâtres par la Révolution anglaise, ils ne seront rouverts qu'avec la Restauration en 1660. La plus grande partie des pièces dont nous connaissons les titres n'ont jamais été imprimées. Selon les spécialistes shakespeariens ou de théâtre élisabétain et jacobéen, les pourcentages peuvent varier, mais Castan pense qu'il y a moins du cinquième des pièces a été publié, et Douglas Brooks, un peu plus généreux, et à partir d'une comparaison plus systématique entre les titres que nous connaissons et les éditions qui sont conservées, montre que c'est sans doute à peu près un tiers des pièces représentées qui a été au moins une fois imprimée. L'absence de Cardenio, donc, n'est pas en soi surprenante. Mais, du coup, seule une série d'hypothèses peut essayer de nous faire entrer dans le mystère de ce texte et d'essayer de comprendre pourquoi, comment les auteurs ou l'auteur de 1613 ont approprié le Don Quichotte pour en faire du théâtre. Il y avait une raison première, c'est que le Don Quichotte de Cervantes, et on le lui a reproché, était aussi un texte dans lequel se rencontrait au moins une nouvelle. Et c'est l'un des reproches que le bachelier Sanson Carrasco, au début de la seconde partie de Don Quichotte, publié en 1615, dont il se fait l'écho. Je cite, « L'un des défauts que l'on reproche à cette histoire, c'est que son auteur y a inséré une nouvelle intitulée « Le curieux impertinent »,« El curioso impertinente ». Non pas qu'elle soit mauvaise ou mal écrite, mais parce qu'elle n'est pas à sa place et n'a rien à voir avec l'histoire du seigneur Don Quichotte. » Alors ici, l'allusion par Cervantes à propos de son propre livre est donné à dire au bachelier Sanson Carrasco, puisqu'au début de la seconde partie, en 1615, les personnages du roman commentent la première partie. Je dis « roman » entre guillemets, puisque jamais Cervantes n'aurait utilisé cette expression. Le livre est toujours désigné comme « una historia ». Une novella, qui serait la traduction de roman, s'applique au genre de la nouvelle, bref, comme l'est « El curioso impertinente » ou comme le sont les novelas ejemplares. Donc, dans la seconde partie, il y a une discussion sur la circulation, les critiques, les modes de lecture de la première partie. Et c'est dans ce contexte que Sanson Carrasco fait allusion à ce reproche, pourquoi avoir inséré cette nouvelle. Il faut vous rappeler que cette nouvelle du Curioso Impertinente se rencontre au chapitre 23 à 25, et c'est un récit lu à haute voix par le curé à tous les autres personnages du roman, sauf Don Quichotte qui est allé dormir, et qui n'a aucun rapport, effectivement, avec l'intrigue de Don Quichotte et Sancho. C'est un manuscrit qui a été trouvé dans l'auberge de Juan Palomeque, et pour passer le temps, les personnages demandent au curé de le lire à haute voix. Et c'est l'histoire d'un mari qui, pour défier ou être sûr de la vertu de sa femme, enjoint un de ses amis d'essayer de la séduire. Et l'intrigue se passe dans un autre temps et dans un autre lieu que le Don Quichotte. Donc, c'est bien ce que dit Sanson Carrasco, qu'elle n'a rien à voir avec l'histoire du Seigneur Don Quichotte. Et sans doute, c'est une hypothèse de Francisco Rico, pour qu'elle ait un peu plus à voir du point de vue narratif, sans doute Cervantes a déplacé un épisode qui normalement devait apparaître après la fin de la lecture à haute voix de ces trois chapitres du Quichotte qui correspondent à la novella, qui est le moment où Don Quichotte se réveille de son sommeil et pense que les outres de vin de Juan Palomeque sont des géants qu'il lui faut combattre. Et cet épisode du réveil de Don Quichotte et du combat contre les outres de vin transpercés, sans doute, dans un premier temps, Cervantes l'avait placé après la fin de la lecture, mais pour créer plus d'intrication, il l'a remonté au début du troisième et dernier chapitre dans lequel se lit l'histoire du curieux impertinent. Mais néanmoins, il n'y a pas de rapport. Ce qui faisait d'ailleurs que cette histoire du Curioso Impertinente était plus facile à adapter pour le théâtre que tout autre fragment du Quichotte, puisqu'il y avait là une unité tout à fait donnée, une histoire forte, ce défi qui se termine très mal, puisque effectivement la femme et l'ami tombent amoureux l'un de l'autre, et dans le texte de la nouvelle, cela se termine par la mort de tous les protagonistes. Il était plus facile, c'était le passage du Quichotte le plus facile à adapter, et de fait, en 1611, dans une pièce qui a pour titre « The Second Maiden Tragedy », l'intrigue secondaire est l'intrigue du Curioso Impertinente, l'histoire d'un mari, Anselmo, chez Cervantes, Anselmus, dans la pièce, qui, trop curieux ou trop sûr de la vertu de sa femme, défie son ami, qui est le nom est Lotario dans le texte de Cervantes, transformé en Votarius dans la pièce anglaise, qui se prend au jeu de la séduction, tout comme d'ailleurs The Wife, qui est le nom indéterminé de l'épouse dans la pièce anglaise, mais qui est l'épouse d'Anselmo et qui tombe amoureuse de celui qui a été enjoint de la conquérir. Et les deux amants dans la pièce anglaise meurent d'une manière un peu différente que chez Cervantes, puisqu'ils meurent, Votarius et The Wife, d'un stratagème qui avait été inventé pour renforcer la certitude d'Anselmo dans la fidélité de son épouse. L'amant devait, la femme devait légèrement blesser son amant pour montrer combien elle lui résistait, ce qui aurait été la preuve de sa fidélité. Mais dans la pièce The Second Maiden Tragedy, l'épée a été empoisonnée par un serviteur, et donc le coup qui devait être une feinte devient un coup mortel, et Votarius meurt de cette épée empoisonnée qui l'a frappé. Donc une histoire venue du Quichotte, relativement aisée à mettre en scène, parce qu'elle est détachée de l'histoire de Don Quichotte et qu'elle a une unité en elle-même. Mais ce n'est pas le choix qu'on fait, qui a été fait en 1613, puisque la pièce s'appelle Cardenio, et que donc peut-être déjà l'exemple d'une première utilisation en 1611 dans The Second Maiden Tragedy du Curioso Impertinente pouvait éloigner de ce réemploi. Alors pourquoi Cardenio, qui est beaucoup plus complexe à utiliser, puisque, comme je le disais, les personnages rencontrent Don Quichotte, puis Sancho, bien sûr, mais aussi le barbier et le curé qui sont partis dans la Sierra Morena pour faire revenir Don Quichotte dans son village, et que, d'autre part, la narration des amours malheureuses, puis heureuses, de Cardenio et Lucinda, de Fernando et Dorothea, et n'est pas du tout un récit linéaire, mais est un récit qui est fait rétrospectivement par chacun des protagonistes de ces histoires d'amour qui raconte l'histoire jusqu'au moment où il la connaît. Et un second récit va permettre de prolonger cette histoire jusqu'à ce que le second narrateur connaît et que le lecteur ignorait jusqu'à cet ajout au récit. C'est une circulation en boucle rétrospective qui narre l'histoire des amours de Cardenio. On voit donc là un travail d'adaptation dramatique infiniment plus complexe, puisqu'on ne peut pas écrire du théâtre de cette façon-là, au moins au XVIIe siècle. Donc il fallait redonner une structure linéaire et chronologique à ce qui était une série de récits rétrospectifs, les deux plus importants, Cardenio et Dorothea, dans le Quichotte. Malgré la difficulté, on peut penser que la pièce de 1613, Cardenio, s'empare de ces histoires croisées des amours de Cardenio et Fernando. La première raison pour expliquer cette volonté, malgré la difficulté, était sans doute que cette nouvelle, même si elle n'a pas exactement la structure d'une nouvelle telle que le Curioso Impertinente dans le Quichotte, enfin cette nouvelle sentimentale était très ajustée à le genre qui était à la mode au début du XVIIe siècle, celui qui attirait les dramaturges, c'est-à-dire la tragicomédie. Et comme je le disais, en plus, qui pouvait résonner dans le rapport avec la situation politique de la cour. La tragicomédie était définie par Fletcher de cette manière dans une pièce de 1608, « The Faithful Shepherdess », la bergère fidèle. Et j'ai traduit « une tragicomédie » est ainsi appelée, non parce qu'elle allie la gaieté aux tueries, mais parce que personne n'y trouve la mort, ce qui suffit à n'en faire une tragédie, bien que d'aucuns s'en approchent, ce qui suffit à n'en pas faire une comédie, laquelle doit être une représentation de personnages familiers avec de ces complications qui ne mettent nulle vie en cause. Et de fait, l'histoire de Cardenio et des trois autres jeunes gens correspond à cette définition. D'un côté, il s'approche de la mort, il frôle la mort. Lucinda, parce qu'elle dit qu'elle va se suicider plutôt que d'épouser Fernando. Cardenio, par son désespoir dans la Sierra Morena. Dorothea, parce que la jeune femme qui avait été séduite par Fernando puis abandonnée par lui, parce qu'elle est deux fois mise en grand danger par les compagnons masculins qu'elle a avec elle lorsqu'elle est partie à la recherche de son infidèle amant. Donc il y a réellement des scènes qui sont au bord de de la mort, mais personne ne meurt, et comme je l'ai dit, all well that ends well, tout est bien qui finit bien dans la pièce. On a donc là une histoire qui correspond tout à fait à ce critère de définition de la tragicomédie. D'autre part, il est sûr que l'écriture même de Cervantes, respectée par Shelton, fournissait des matériaux qu'un dramaturge pouvait immédiatement mobiliser, à la fois des scènes spectaculaires, la première scène qui est celle où Fernando séduit Dorothea, la fille du paysan riche, en lui promettant le mariage, et qui est une scène extrêmement forte, violente, avec de multiples dialogues entre Fernando et Dorothea, ou bien la scène du mariage entre Lucinda et Fernando, une fois que le père de Lucinda l'a accepté cette union, et ce qui oblige Lucinda à renoncer à son amour pour... non pas à renoncer à son amour, mais à renoncer au mariage ou à la promesse qu'elle a faite à Cardenio, et c'est de là qu'elle dit qu'elle se suicidera plutôt que d'accepter Fernando, ce qu'au moment de la cérémonie, elle ne fait pas. Mais il y a là un moment tout à fait dramatique avec Fernando, Lucinda, le père qui la donne en mariage à Fernando, Cardenio caché derrière une tapisserie et qui assiste impuissant et désespéré à cette scène. Ou encore la réconciliation finale, lorsque dans la même auberge, les personnages se retrouvent, se rencontrent, se reconnaissent, et finalement, à la suite de l'imploration, le pardon et la réunion sont établis et les couples se reforment. Fernando, Dorothea, Lucinda, Cardenio. On a donc une matière dramatique forte dans ces scènes, et comme je le disais, qui est déjà écrite de manière dramatique par Cervantes, traduit par Shelton, c'est-à-dire des séries de dialogues, ou bien même de nombreux monologues intérieurs, ou ces récits qui sont faits à d'autres sur les événements qui sont advenus. La difficulté principale était, comme je le disais, cette construction même de l'intrigue, puisqu'il fallait transformer en un récit linéaire ce qui était une série de retours en arrière où chaque narration ajoute des épisodes connus seulement par le nouveau narrateur et qui ne l'étaient pas jusque-là par les autres personnages ou le lecteur. Et au-delà, la grande difficulté et qui m'avait beaucoup retenu l'année dernière, c'était le fait de comment penser la relation entre cette nouvelle sentimentale et la historia du chevalier errant. C'est-à-dire, le choix ici pouvait être donné à un dramaturge, ou bien de respecter ce que Cervantes avait créé dès le chapitre 23, c'est-à-dire la rencontre entre ces deux locos, ces deux fous, que sont Cardenio, homme sauvage, pour désespéré par la trahison à la fois de Fernando et, le pense-t-il, de Lucinda, et d'autre part, Don Quichotte, fou de ses lectures. Et fallait-il pour était-il possible de respecter sur la scène l'intrication de ces deux folies et des épisodes qu'elles entraînent l'une et l'autre, associer ainsi la déraison comique du chevalier de l'Hidalgo avec les désespoirs ou les violences et finalement les réconciliations des amants séparés puis réunis, ou bien fallait-il séparer ces deux éléments et, dans une pièce dont le titre est « Cardenio », ne retenir que la nouvelle sentimentale sans y impliquer Don Quichotte, Sancho, le barbier, le curé. La question était sans doute posée, encore avec plus d'acuité, à partir du moment où, pour renforcer le lien entre les deux éléments, Cervantes, dans le Don Quichotte, invente un stratagème. Le curé et le barbier entrent dans la Sierra Morena pour ramener Don Quichotte dans son village. Alors, il se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour le convaincre, et il joue sur sa folie en pensant que si une princesse éplorée vient demander son aide au chevalier errant, il ne pourra pas lui la refuser. Au début, d'ailleurs, ils pensent se déguiser eux-mêmes en femme et son en princesse et son écuyer, mais comme ils ont rencontré Dorothea, celle-ci dit qu'elle a lu tous les romans de chevalerie et qu'elle peut faire le rôle sans doute mieux que le curé ou le barbier. Et à partir de ce moment-là, Dorothea devient dans l'histoire la princesse Micomicona, qui a été dépouillée de son royaume par un terrible et méchant géant. C'est d'ailleurs ce géant-là que Don Quichotte, endormi, croit découvrir dans les outres de vin de Juan Palomeque. Mais du coup, l'intrigue était encore plus serrée entre le roman sentimental, la nouvelle sentimentale et l'histoire de Don Quichotte. Que faire de cela sur une scène ? Alors, une première stratégie de recherche que j'avais surtout développée l'année dernière, et je ne vais pas rentrer de nouveau dans les détails, était, puisque la pièce de 1613 n'existe pas, d'essayer de comprendre comment, dans des pièces qui, elles, existent, ces difficultés avaient été résolues. Et c'est pourquoi, l'année dernière, m'étais attaché à deux pièces, essentiellement, qui sont ont été écrites et représentées avant ou après celle de 1613 à la cour d'Angleterre, et qui sont des adaptations, des appropriations de Don Quichotte. La première, en tous les sens du mot, c'est sans doute la première pièce jamais écrite à partir de Don Quichotte et avec le titre Don Quixote de la Mancha, est une pièce de Guillén de Castro, le dramaturge de Valence, qui l'a écrite sans doute entre 1605 et 1608. Beaucoup des spécialistes de Guillén de Castro pensent qu'elle est peut-être des années 1605-1606, très très proche du Quichotte, et qui a pour titre Don Quixote de la Mancha. Ce Guillén de Castro est évidemment très connu dans la littérature française et européenne, puisqu'il est l'auteur des Mocedades del Cid, ce texte qui a inspiré ou, comme disaient ses ennemis, qui a été pillé par Corneille pour le Cid. Il s'agit d'une comédia classique en trois actes, Tres Jornadas, publiée plus tard, en 1618, dans la Primera Parte, le premier livre qui rassemble 12 comédias de Guillén de Castro. Alors le titre, Don Quixote de la Mancha. En même temps, on peut penser, avec les derniers vers de la pièce, qu'elle avait aussi un autre titre, puisque le dernier vers est et des fils échangés, finit ici la comédia, et du chevalier errant, Don Quichotte de la Manche. Los hijos trocados, les fils échangés. Il est clair, et c'est une indication forte qu'on confirme lorsqu'on analyse la pièce, que Guillén de Castro, même s'il s'est emparé du nom de Don Quichotte pour le titre de sa pièce, dans la pièce, raconte fondamentalement l'histoire de Cardenio et Lucinda, Fernando et Dorothea. Il a gardé le nom des personnages, sauf un, Fernando, qui est transformé en El Marqués, le fils du duc. Et là s'introduit la novation de Guillén de Castro, les fils échangés. C'est-à-dire que ce Marqués, supposément le fils du duc, se révèle à la fin de la pièce, comme l'avait déjà révélé son caractère de veule et méchant, comme étant le fils d'un paysan, alors que Cardenio, qui apparaissait comme le fils d'un paysan, est en fait le fils du duc, les deux enfants ayant été échangés à leur naissance par la nourrice qui était la mère de El Marqués, c'est-à-dire en fait le fils de son mari paysan, et d'autre part, elle était la nourrice de Cardenio, qui n'est pas son enfant, mais était le fils du duc. C'est une invention totale de Guillén de Castro qui rajoute un motif de roman ou nouvelle sentimentale à cette pièce. Mais il est clair du coup que l'essentiel de la pièce est consacré à l'histoire de Cardenio et de Fernando et des deux jeunes filles qu'ils ont séduites, pour l'un abandonné, pour l'autre respecté. Don Quichotte apparaît dans la pièce de Guillén de Castro, mais il apparaît de façon marginale, à la fois dans la dans la structure de la pièce et aussi par rapport à son intrigue, et il apparaît comme étant le personnage qui incarne, dédoublé avec Sancho, un personnage presque obligé de chaque comédia, qui est le gracioso, le personnage comique, l'équivalent du clown dans les pièces, les comédies anglaises. Et ce qui fait dire à un moment ce jeu par une douane de Lucinda, « El loco es gracioso », le fou est gracieux, qui est à la fois de dire que la folie de Don Quichotte lui permet de remplir cet emploi de comédia qui est celui des gracioso. Et Guillén de Castro a organisé toute une série de scènes dans lesquelles, effectivement, le fou est gracieux, el loco es gracioso, c'est-à-dire des scènes qui soit sont directement inspirées par Cervantes, soit qu'il a inventé lui-même, mais où, chaque fois, l'idée est la même, le but est le même, faire rire à partir du ridicule de Don Quichotte. Don Quichotte battu par les serviteurs du marquis, ça vient directement. C'est une adaptation, une interprétation des scènes nombreuses dans lesquelles le pauvre Don Quichotte dans Cervantes est battu. Ou Don Quichotte traversant la Seine à la nage, et ça c'est une invention de Guillén de Castro, pour se moquer des romances ou des poèmes infiniment nombreux sur l'histoire antique de Héro et Léandre. Il y a un poème fameux de Marlowe, Hero and Leander, où Léandre traverse l'Hellespont en espérant voir la flamme que va allumer, la torche qu'allume son aimé Héro, mais comme ceci n'advient pas, il se noie dans l'Hellespont. Et donc c'est une parodie de cette histoire mythologique transformée en répertoire poétique que Guillén de Castro introduit avec ce Don Quichotte qui se déshabille et nage sur la scène qu'il prend pour la mer. Ou enfin la scène finale de Don Quichotte dans sa cage. Et parallèlement à ces scènes où Don Quichotte est le personnage comique de la pièce, Guillén de Castro a organisé une série de dialogues et de rencontres où se croisent la folie de Don Quichotte dans son rôle de gracioso avec l'intrigue sentimentale de Cardenio, qui était de fait le fils du duc et du marquès qui ne l'était pas. Est-ce qu'en 1613, le même parti avait été suivi? Comme je le disais, l'absence de la pièce rend impossible la réponse et nous conduit à des hypothèses. Et je termine cette première heure avec la seconde hypothèse qui venait d'une autre lecture, d'une autre pièce qui s'est confrontée à la même difficulté que la pièce anglaise de 1613. Cette fois-ci, elle est française. Elle a été écrite par un auteur dont on ne sait presque rien, pas même le prénom, Pichou, 1628, est jouée par la troupe de l'Hôtel de Bourgogne, une tragicomédie qui a pour titre Les Folies de Cardenio. Et c'est la première adaptation en France du Don Quichotte, sous le titre du genre à la mode, Les Folies, le tragicomédie, et cette fois, vous l'avez vu, plus proche du cas anglais, puisque le titre est sur Cardenio, utilise Cardenio et non pas Don Quichotte. Et la solution, même si dans le détail de l'analyse dramatique les différences sont fortes, la solution de Pichou pour construire sa pièce est de donner donc l'accent sur les amoureuses traverses, comme il écrit dans son argument des personnages, Lucinde, Cardenio, Dorothée et Fernand, écrire cette pièce avec de très longs monologues qui sont pratiquement des pièces poétiques en elles-mêmes et qui mobilisent une esthétique qui est l'esthétique qu'on va qualifier de baroque en suivant le livre de Rousset, c'est-à-dire une esthétique de l'inconstance, des éléments, des êtres, une esthétique qui se situe toujours dans la tension entre la plainte, la déploration pastorale et d'autre part un effroi du macabre. Et il y a de très longs morceaux poétiques qui sont donnés à Lucinde et encore plus à Cardenio, qui font de cette pièce comme une sorte d'anthologie poétique. Mais comme Guillaume de Castro, il a introduit Don Quichotte dans la tragicomédie, ne fût-ce que pour construire un contrepoint burlesque à cette poésie pastorale et macabre. Mais Don Quichotte figure peu. Il rentre en relation avec les autres personnages à l'acte 3, sa rencontre avec Cardenio, et à l'acte 5, dans la feinte qui est utilisée par Pichou de la princesse Micomicona, alias Dorothée. Néanmoins, même s'il est marginal dans cette intrigue, le dernier acte impose la présence de Don Quichotte, puisque ce sont ses extravagances qui donnent la première scène et la dernière scène de la tragicomédie, comme si finalement Don Quichotte s'imposait de plus en plus dans une pièce où il était accueilli comme contrepoint burlesque, qui était voué aux folies de Cardenio, avec cet autre thème du moment baroque, c'est-à-dire l'exercice dans l'opéra ou dans la tragédie ou dans la tragicomédie, de donner à voir la folie. Néanmoins, sa présence s'imposait. Donc, pour conclure sur ce premier temps de l'exposé de ce matin, on a donc trois œuvres qui ont porté sur la scène le livre de 1605, la Commedia de Guillaume de Castro, la pièce jouée à Londres, la tragicomédie de Pichou. Toutes les trois, quel que soit leur titre, ont privilégié l'histoire sentimentale que Cervantes avait croisée avec les exploits comiques du chevalier errant et de son écuyer. Dans les deux textes qui nous sont parvenus, Don Quichotte n'est pas absent. Il n'est pas absent de la pièce qui porte son nom, la Commedia, et il n'est pas absent de la tragicomédie qui a pour titre Les Folies de Cardenio. Mais dans les deux cas, il demeure comme un contrepoint comique dans une intrigue qui est d'abord celle du mélancolique, du furieux, du désespéré Cardenio, celle du fourbe mais qui se révèle finalement généreux Fernando, et des deux jeunes femmes, Dorothea et Lucinda, demeurées fidèles dans leur amour et demeurer fidèles aux promesses faites d'échanges matrimoniales avec les deux jeunes gens qui en étaient amoureux, Fernando et Cardenio. On voit donc que dans le premier temps de sa réception, Don Quichotte n'a pas forcément été perçu comme seulement, ou peut-être même comme principalement, une satire du genre du roman de chevalerie, et pas plus d'ailleurs qu'une satire d'autres genres qui sont néanmoins l'objet de l'ironie et de la moquerie dans le texte, le roman picaresque, le roman pastoral, le théâtre lui-même, mais que la première réception du Quichotte s'est sans doute attachée à lire le texte comme une anthologie de nouvelles, le curieux impertinent, les amours ou les folies de Cardenio, on pourrait ajouter, même s'il n'y a pas eu d'adaptation théâtrale qui s'en est saisie à ce moment-là, le récit du captif évadé du bagne d'Alger, des bagnos de Argel, des prisons barbaresques d'Alger, et qui rencontre les personnages vers la fin de la première partie. Donc toute une série de nouvelles, les unes constituées comme telles, les trois chapitres du Curioso Impertinente, les trois chapitres du récit du captif, d'autres plus disséminées et d'une structure infiniment plus complexe, comme Cardenio, mais néanmoins qui pouvaient toutes fournir aux dramaturges une matière riche en coups de théâtre, en scènes dramatiques, en moments paroxystiques, et déjà écrite pour partie dans une forme théâtrale qui renvoyait à la violence, au contraste, à la richesse des sentiments. Et c'est à partir de là que on peut avancé, j'avais essayé de le faire l'année dernière, une série d'hypothèses sur la pièce perdue de 1613. Alors, pour respecter l'usage, nous allons faire une petite pause de 5 minutes et je continuerai cette présentation qui renoue les fils brisés avec les cours de l'année dernière et qui vont maintenant entrer dans la matière nouvelle de ceux de cette année.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.